Vous allez écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.
Et bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue pour cette nouvelle émission du Fréquence Geek. Ici votre cher animateur Bastien qui vous parle, et ça va être aujourd'hui la fiesta avec cette section jeux vidéo sur laquelle nous évoquerons les liens entre Metroid Prime et Retro Studio. Ensuite, nous ferons la partie manga sur un bilan du film de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Viendra ensuite sortie en vrac, et enfin les événements. Et tout de suite, nous allons commencer par la partie jeux vidéo avec Metroid Prime et Retro Studio. Avant de lancer le sujet, je tiens déjà à m'excuser auprès des fans les plus hardcore gamers de Nintendo d'entre vous de n'évoquer cette information que seulement quelques semaines après son annonce faite par le PDG de Nintendo lui-même. En effet, l'enregistrement de l'émission du Fréquence Geek du mois de février, ayant eu lieu le même jour que l'annonce concernant la reprise à zéro de Metroid Prime 4, j'ai donc décidé de reporter l'émission de ce sujet à aujourd'hui. Sur ce, commençons sans plus tarder. Voilà déjà depuis le 25 janvier 2019 que l'info semi-dramatique du Nintendo est tombée concernant la reprise à zéro de Metroid Prime. Et pourtant, les fans de Samus Aran, l'héroïne principale du jeu, continuent de se poser des questions sur ce qui n'allait pas pour que Nintendo prenne une telle décision. Mais pour les moins connaisseurs d'entre vous, qui est Retro Studio, me diriez-vous ? Eh bien, je vais vous le dire. Retro Studio est une boîte d'éditeurs et de concepteurs de jeux vidéo fondée en 1998 dans le but de développer des jeux pour la future console de la génération 2000 de Nintendo, la fameuse GameCube. Dès lors, la boîte avait commencé à développer 4 jeux inédits exclusivement dédiés à la GameCube, qui devaient être Action Adventures, Cards Combat Thunder Rally, NLF Retro Football et enfin Raven Blade. Toutefois, Nintendo décida en début des années 2000, de leur demander de geler tous ces projets pour développer une nouvelle série Metroid. Metroid était à la base une série de jeux de type action-adventure avec un côté très axé plateforme qui, à la suite de la sortie de la saga Prime, a viré au jeu de tir à la première personne, aussi appelé FPS, pour First Person Shooter, dans lequel le joueur incarne Samus Aran, une célèbre chasseuse de primes qui protège la galaxie de la menace représentée par les pirates de l'espace et de leur tentative de maîtriser la puissance des créatures parasites appelées Metroid. Ainsi donc, le premier Metroid Prime fut créé et considéré comme l'un des meilleurs jeux à ce jour qui fut sorti sur GameCube. Il convient de noter que Retro Studio ne deviendra officiellement qu'une filiale de Nintendo qu'en 2001 suite à la vente des parts soudaines du premier PDG des papas de Metroid Prime, ce qui viendra à nommer un nouveau patron en 2003. En 2004, Retro Studio sort par la suite Metroid Prime 2 Echoes, qui obtient, comme son prédécesseur, un franc succès critique et commercial, bien que le record de vente n'eût pas atteint l'objectif espéré par Nintendo. La franchise continue à en faire parler d'elle, Nintendo et Retro Studio lanceront Metroid Prime 3 Corruption, premier jeu de développeur pour la nouvelle console de Nintendo, la Wii, comme ses deux premiers prédécesseurs, conservera le même succès. Fier du prestige de la licence, Nintendo Retro Studio lance le 4 septembre 2009 en Europe, le 24 août 2009 en Amérique du Nord et le 15 octobre 2009 en Australie, une compilation nommée Metroid Prime Trilogy, regroupant les 3 jeux de la franchise Prime pour les plus grands bonheurs des fans de Wii et GameCube. Puis, fin 2010, Retro Studio se lance un nouveau défi et très peu fuité même en interne et semble en avoir fini avec la saga Metroid Prime. En effet, lors de l'E3 2010, Nintendo avait annoncé un projet inédit. Retro Studio remet au goût du jour la série Donkey Kong avec un volet intitulé Donkey Kong Country Returns, en 2,5D de la saga Donkey Kong Country, débutée sur NES par Rareware. La présentation du jeu est un franc succès et sa sortie est programmée en France pour le 3 décembre de la même fin d'année 2010. Le succès critique est encore au rendez-vous puisque la presse spécialisée en parle comme l'un des très grands jeux de plateforme. La même année, le studio est appelé en renfort par Nintendo EAD pour participer au développement de Mario Kart 7. En 2012, il est annoncé que Retro Studio travaillait sur un jeu destiné à la Wii. Nous n'en saurons sans doute pas plus. En 2012, il est annoncé que Retro Studio travaille sur un jeu destiné à la Wii U. Le projet est alors dévoilé à l'E3 2013, Nintendo annonçant dans la conférence de Nintendo Direct le lancement de deuxième opus de la série Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Tropical Freeze sort le 21 février 2014 en France et c'est aujourd'hui est encore à ce jour le dernier jeu en date du studio. Toutefois, en 2018, la presse spécialisée dans le commerce de jeux vidéo avait laissé entendre que les studios travaillaient de nouveau sur un jeu de course, Star Fox, avant de faire part d'un abandon du projet, et puis plus rien, il y a de silence total. Depuis ce jour, on en était venu à se demander sur quoi pouvait bien travailler le studio depuis l'abandon de ce jeu de course Star Fox. Et finalement, on a eu la réponse qui fut la suivante, la reprise à zéro du concept même de Metroid Prime. Toutefois, nous ne savons toujours pas sur quoi Retro Studio pouvait bien travailler durant la période à vide qui a suivi entre l'annulation du jeu de course Star Fox et qui a précédé la demande de Nintendo de cette remise à zéro de Metroid Prime. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les fans doivent donc encore faire face à l'idée de compter encore quelques très longs moments d'attente supplémentaires avant de voir arriver les premières informations sur le réel démarrage d'un nouveau Metroid Prime Switch, voire carrément celui d'un After Switch. On fait une pause musicale et on revient juste après pour parler de la partie manga. A tout de suite sur RTVFM.
Some of this sweet, sweet music. It's music for happy people, better believe it. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool than suffer on in silence. Dance, soca dance, soca dance. Want to play yourself at this soca beat? This Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray, gather around, we'll jam it night and day. All along the beach, a party in the moonlight. We soak the sounds to make the feeling of the tune right. Dance, soca dance, soca dance. Dance, soca dance, do a soca dance. Or jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line.
Dance, soca dance, soca dance.
I said, take it from the bottom, take it from the top. I love the way you're moving, don't you ever stop. Coconut water will cool you down, that's the life.
Dance, soca dance, soca dance.
Dance, soca dance, soca dance.
Et nous voici de retour pour cette deuxième émission, pour cette deuxième partie de l'émission de Fréquence Geek. Ici votre animateur Bastien qui vous parle et qui est toujours présent au rendez-vous. Donc tout de suite, nous allons commencer la partie manga animation avec Nicky Larson du Cupidon pour le bilan critique. Sorti dans les salles audio cinéma depuis le 4 février 2019, le verdict de l'adaptation cinématographique de Nicky Larson est tombé sur un avis mitigé entre les fans du Club Dorothée et les inconditionnels de City Hunter. Mais du coup, après la sortie, la vraie question étant celle-ci, ce film a-t-il respecté les attentes des fans ? Déjà, avant de vous donner mon bilan sur les points positifs et négatifs qui sont ressortis de ce film, je tiens à vous dire que pour moi, il est inutile de chercher à me dire que City Hunter est différent de Nicky Larson, puisqu'en fait, il s'agit du même manga, bien que la trame du livre ne suive pas le même cheminement que celui de l'animé. Et sachant bien sûr que le scénario de l'animé s'est arrêté largement avant le dernier chapitre du livre, chose que les gens ont parfois tendance à oublier, et c'est bien normal vu que très peu ont lu le manga. Les soi-disant différences entre la version originale et la version française viennent surtout des perles du doublage français de la série télé animée. En effet, en raison des lois de censure et des difficultés de traduction japonaise qui ont été rencontrées par les studios de doublage et d'adaptation des années 80-90, on pouvait voir dans les versions originales des passages qui n'existaient pas dans les versions françaises, ou encore des plans en boîte censurée, sans compter des modifications de certains dialogues. Du coup, certaines phrases comme « tirez-vous dessus » furent remplacées par « lancez-vous des boulettes à la tête », faisant perdre ainsi toute crédibilité d'une scène de tension dans laquelle l'antagoniste d'un épisode demandait à Nicky de s'entretuer avec un autre personnage à coup de revolver sous peine d'éliminer un otage. Vous comprendrez donc que je ne chercherai pas à dire si ce film se rapproche plus d'un City Hunter ou d'un Nicky Larson, mais plutôt de voir si les traits des caractères propres à chaque personnage ainsi que la mise en scène général du film a été respecté par Philippe Lachaud. Car on va tout de même le dire, hein, le parfum de Cupidon tient quand même plus de l'humour de City Hunter que de son côté ambiance polar sombre. Après tout, on est dans du Lachaud. Tout d'abord, commençons par les points positifs. L'humour potache, caricatural, pervers, grotesque, sans compter les gags débridés et cartoonesques du manga, s'exprime parfaitement bien avec le style humoristique de Lachaud, bien connu pour son penchant de blagues sexistes et son traitement de l'homosexualité bien dégueulasse. Et pour cause, Nicky Larson, ou plutôt Ryo Saiba, qui est l'un des héros de manga jugés comme étant les plus badass de sa catégorie, également connu pour être un très gros pervers. Que cela tienne du manga ou de l'anime basé sur du City Hunter, le personnage est et restera toujours tel quel en la présence de Laura, alias Kaori Makimura, c'est-à-dire un héros au grand cœur, courageux, loyal, mais pas simplement obsédé, et potache avec un état d'âme secondaire constamment fixé sur les jupes des filles. En clair, le profil du mec, à la fois tireur d'élite, détective et garde du corps parfait, doublé de la typique caricature ninpom du coureur de jupons exaspérant de lourdeur, et ça, Philippe Lachaud l'a très bien compris. Malgré quelques moments surjoués, contrairement à sa collègue Elodie Fontan qui, dans le rôle de Laura, ou plutôt Kaori Makimura, a tellement bien intégré son personnage qu'elle mériterait une palme d'or pour avoir réussi à tenir la quasi-intégralité du film à elle toute seule. On y retrouvera également un bon nombre de clins d'œil principalement dédiés aux gens de la génération du Club Dorothée qui ont également fait un petit sourire au coin de l'œil. Et quant à la bande-son du film, quoi dire de plus plaisant que d'entendre de la musique Get Wild du groupe japonais TM Network en 2019 sur du grand écran français. Cependant, il est temps également de parler des points négatifs du film. Ce film, au niveau scénario, reste malgré tout un peu facile, et les raccourcis scénaristiques sont plutôt voyants, sans même vous parler de certains éléments reliant les personnages entre eux qui viennent se placer tel un cheveu sur la soupe. Parce que oui, on nous sort des éléments essentiels, certes prévus à cet effet, qui viennent de nulle part, et qui parfois ne serviront pas à grand chose vu qu'on n'a pas vraiment d'explication tangible sur le pourquoi et le comment tellement ça a été mal amené. On notera également certains plans mal cadrés et des faux raccords plutôt vaillants sur des scènes d'action bien que tolérables en raison du fait qu'il s'agit malgré tout du premier film dans lequel Lachaud joue des scènes à l'américaine façon Stallone et Schwarzenegger avec des plans montrant des trajectoires de balles façon Matrix. Certes, que l'on retrouve également facilement et fidèlement dans le dessin animé de notre enfance. Finalement, Philippe Lachaud et son équipe de cabaret nous ont offert une très bonne adaptation cinématographique française de City Hunter qui, au passage, a été validée par l'auteur du manga en personne, permettant ainsi de nous confirmer qu'il s'agirait d'un film qui se laisse regarder, surtout chez les plus nostalgiques du Club Dorothée. Bien que les connaisseurs de City Hunter auraient espéré voir ce film quelque chose volant beaucoup plus haut que ce qu'il a réussi à donner à son public. C'est-à-dire une comédie d'action aussi bien délirante que très rocambolesque, où la justice s'appelle Nikki dans la chaleur de la nuit, où le mal est toujours puni. Et je vais maintenant vous laisser pour une petite pause musicale, et on se retrouve tout à l'heure pour les sorties en vrac et les événements. Et rebonjour à tous, c'est votre animateur Bastien qui vous parle toujours pour cette nouvelle partie du Fréquence Geek du mois de mars. Et nous allons tout de suite entamer la suite de notre émission avec Sorties en Vrac et nous terminerons par les événements. Donc tout de suite, chez Sorties en Vrac, alors je vais déjà vous parler de Devil May Cry 5. Développé par Capcom et disponible depuis le 8 mars 2019, Nero et Dante de la prestigieuse série Devil May Cry reviennent faire leur show des années 90 dans une nouvelle chasse aux démons. Le jeu prend place dans la ville fictive de Redgrave et ses souterrains 1 et 2. La modernité de la ville, quoique légèrement teintée de style gothique, est plongée dans une ambiance sombre voire glauque. Dans ce cinquième volume, l'histoire se déroule plusieurs années après les événements de Devil May Cry 4, au moment où une invasion démoniaque envahit les environs de la ville et sème la terreur parmi les humains. Les protagonistes sont donc notre fameux Dante, expert en armes à feu et armes démoniaques, son neveu Nero, sachant que lequel a perdu son bras démoniaque, le Devilbringer, au profit d'un bras mécanique appelé le Devilbreaker, et enfin un nouveau personnage mystérieux, semblant être un genre de sorcier invocateur répondant au nom de vie. Devil May Cry 5 est un jeu d'action de type Beat 'em All, dans lequel le joueur doit affronter des créatures démoniaques. Il est important d'y noter que les combats se veulent réalistes et dynamiques et que le joueur ne pouvant stopper l'action d'un coup avant d'enchaîner un second avec pour seul principe de dégommer vos ennemis avec élégance à coups d'armes blanches et d'armes à feu afin de faire monter votre jauge de style dans le cadre d'augmenter la durée de vos combos. Toujours très linéaire dans sa tradition, Devil May Cry proposera surtout des niveaux à sens unique. Ne jouant certainement pas dans le domaine de certains jeux axés sur l'exploration, tel que The Witcher, il proposera cependant à ses joueurs plus d'une vingtaine de missions par personnage, soit plus de 60 missions différentes au total. S'inscrivant dans le jeu du mois, surtout pour les fans de Capcom, vous le trouverez disponible en version Xbox, PS4 et PC dans les différents points de vente participants. Eden Zero Volume 3. Les aventures de Shiki et sa bande d'explorateurs de l'espace se poursuivent dans ce troisième volume, prévu pour le 13 mars 2019. Pour rappel, il s'agit de la nouvelle histoire de Hiro Mashima, le papa de Fairy Tail, dans laquelle nous suivons le périple de Shiki Grande Belle, un orphelin par des animatroniques, une sorte de conscience cybernétique vivant sur un parc à thème. Ce parc est visité par deux aventuriers, Rebecca et son chat de compagnie Happy, dont Shiki se liera d'amitié pendant qu'ils enregistrent des vidéos pour le site de partage de vidéos B-Cube. Vers la fin de la durée de vie de leur batterie, les robots du parc font croire à Shiki qu'ils sont soudainement hostiles aux humains et qu'ils tentent de tuer les deux visiteurs. En réalité, cette comédie est censée inciter Shiki à partir avec Rebecca et Happy dans le but de l'empêcher de rester seul sur la planète destinée à l'abandon. Après avoir vaincu à contre-cœur les robots, Shiki rejoint Rebecca et Happy dans leur guilde d'aventuriers, la bougie du météore, pour explorer le cosmos Sakura, dans l'espoir de devenir les premiers aventuriers à trouver Mother, la déesse mystérieuse de l'univers. Et enfin, événement, je vais vous parler déjà en premier de la convention science-fiction d'Orange en 2019. Salon du geek axé sur les domaines de la science-fiction tels que Star Wars ou Alien, il est organisé par l'association SFO 84 en partenariat avec la mairie d'Orange pour vous offrir un salon des plus complets. Comportant au programme plus de 80 exposants de manga, jeux vidéo, cosplay, auteurs et dessinateurs, en plus des concours de cosplay, des danses de K-pop, des concerts de musique, de films, ainsi que de nombreuses activités pour la famille à découvrir sur place au parc des expositions d'Orange situé à l'avenue Charles Dardin du 27 au 28 avril 2019. Entrée gratuite pour tous, buvette et restauration sur place. Pour tout renseignement supplémentaire, rendez-vous sur le site internet http://acfo84.wixsite.com/orange. Castlevania Arc 1. Se déroulant au Ponté et plus précisément au château de Frague de l'avenue Guillaume de Farguis du 6 au 7 avril 2019, l'association Geek Evolution est fière de vous présenter son tout nouveau concept de convention, le Castlevania Arc 1. Comme vous l'aurez compris, cette association a eu la folle mais néanmoins innovante idée de faire une convention, non pas dans un salon, mais dans un château. Ce lieu regroupera plusieurs thématiques, exposant cosplay, manga, comics, jeux vidéo, conférences, ainsi que des spectacles et des animations à suivre pendant tout le week-end. Un concert de fin de journée aura également lieu à l'auditorium le 6 avril à 19h30 au prix de 7€ le tarif normal et de 5€ le tarif réduit. Pour plus de renseignements sur les tarifs d'entrée, de location et de réservation, rendez-vous sur les pages Facebook de Castlevania. Et c'est maintenant la fin de notre émission. En espérant que vous y passez un bon moment en ma compagnie, je vous dis à très bientôt pour un prochain Fréquence Geek. A plus!
Vous venez d'écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.